Vous écoutez, on lit pour vous.
La vérité sur cette virée qui a mal viré. Un texte de Boukhar Diouf paru le 16 mai 2026 dans la presse. L'éclosion de cette maladie à hantavirus sur le MV Ondius qui a fait les manchettes cache un message important. Je ne parle pas seulement des frissons qui ont traversé une partie de l'humanité encore traumatisée par la pandémie de COVID-19. Le message en question se trouve ailleurs. Je m'explique. De grands médias internationaux racontent que la contamination se serait produite pendant une excursion d'observation d'oiseaux dans un dépotoir argentin. Le passager, identifié comme le « patient zéro », aurait ramené le virus d'une escapade ornithologique sur ces déchets où on peut observer des espèces rares, dont le caracara huppé et le caracara de Darwin, qui sont des oiseaux de la famille des falconidés. Les dépotoirs étant des lieux de prédilection des rongeurs, réservoirs naturels de ce type de virus, au moins un croisiériste aurait inhalé de la poussière contaminée par l'urine, les excréments ou la salive d'une bestiole porteuse du pathogène. C'est ainsi, croit-on, qu'aurait débuté cette saga. Cela dit, je ne parierais pas mon bungalow sur cette conclusion rapidement tirée, car la pandémie de COVID-19 nous a enseigné que même face à ce qu'on nous présente comme des certitudes, il est sage de se méfier sans tomber dans le complotisme. Chose certaine, dans un monde en bonne santé, des gens ne devraient pas sortir d'une croisière pour aller observer des oiseaux rares dans un dépotoir. Si ces falconidés se nourrissent désormais dans cette décharge, c'est parce que leur habitat naturel est en décrépitude. Là se trouve le message caché de cette histoire qui devrait nous préoccuper bien plus. Pour cause, en octobre 2020, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, nous a fait des prédictions qui donnent froid dans le dos. Cette organisation fondée en 2012 est décrite parfois comme le GIEC de la biodiversité, réseaute des milliers de chercheurs qui travaillent sur la protection de la biodiversité et les services écosystémiques. On parle ici de tous les services essentiels que la nature rend gratuitement à l'humanité. Pensez à la pollinisation, la purification de l'air que nous respirons et de l'eau que nous consommons, la protection contre les inondations, le stockage du carbone ainsi que les médicaments, les matériaux et la nourriture que nous tirons directement de la nature, etc. La santé de la biodiversité aussi est un service écosystémique, car il sert de rempart contre une quantité astronomique de virus potentiellement dangereux qui sont tapis dans le vivant. Quelques chiffres pour donner un ordre de grandeur. L'IPBES avait évalué en 2020 qu'il resterait au moins 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux. De ce nombre, entre 540 000 et 850 000 auraient un potentiel pathogénique pour l'espèce humaine. Pour mettre une image sur cette immensité, je rappelle que sur les près de 17 000 virus connus de l'humanité, les taxonomistes en dénombrent un peu moins de 300 qui provoquent chez nous des maladies. Si l'on se fait déjà sévèrement malmener par cette infinitésimale partie du gigantesque monde viral, imaginez ce qu'on risque de trouver dans les 850 000 autres. Gageons que la probabilité d'y croiser des monstres plus dangereux que les agents responsables de la COVID-19, de l'Ebola ou du sida est très élevée. Or, plus on détruit l'environnement et massacre le vivant, plus la probabilité de faire une telle rencontre augmente. La crise écologique de plus en plus dramatique nous mène donc droit vers de grandes turbulences sanitaires jalonnées de nouvelles maladies zoonotiques, maladies transmises de l'animal à l'homme. Derrière ces prévisions très pessimistes qui font consensus, il y a une hypothèse appelée la perte de l'effet de dilution. Je résume. La grande majorité de ces centaines de milliers de virus potentiellement dangereux pour nous vivent bien loin de l'humanité, en équilibre avec leurs hôtes naturels sans vraiment provoquer chez eux de maladies. Dans les écosystèmes où la biodiversité est en bonne santé, les virus se perdent dans de nombreuses espèces qui sont très majoritairement de mauvais hôtes, qui ne les transmettent pas ou les transmettent inefficacement. Cette dispersion salvatrice est assimilée à une dilution. A contrario, quand la biodiversité est érodée, les virus ont plus de chances de rencontrer les meilleurs animaux porteurs, réservoirs, pour les accueillir, les multiplier et les transmettre à d'autres espèces, y compris la nôtre. Les rongeurs font partie de ces animaux résilients qui peuvent devenir des véhicules viraux de prédilection lorsque la diversité animale s'effondre. La déforestation et la perte d'habitat provoquent aussi un rapprochement entre l'humain et des espèces qui, autrement, n'auraient jamais été en contact étroit avec nous. Le dépotoir où des touristes de la croisière sont allés observer des oiseaux rares est un exemple parfait de cette promiscuité géographique induite par la dégradation de l'environnement. Sans entrer dans les détails scientifiques ou égrener l'ensemble des facteurs impliqués dans ces liens de causalité entre crise écologique et menaces microbiennes, disons simplement qu'une biodiversité saine nous éloigne et nous protège des menaces virales. De ce fait, le message le plus important qu'on gagnerait à décrypter dans cette histoire de croisière est le suivant. La seule façon d'éviter que des drames comme celui qui s'est passé dans ce bateau se multiplient, c'est de revenir au concept de santé globale. Autrement dit, de se rappeler en tout temps que la santé humaine est indissociable de la santé animale et environnementale. On estime que le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Alors, s'il est vrai qu'on ne peut massacrer la biodiversité sans récolter des virus, l'humanité s'approche à grande vitesse de ce temps des moissons qu'on devrait redouter. C'était « La vérité sur cette virée qui a mal viré », un texte de Boukhar Diouf paru le 16 mai 2026, dans la presse.
ChatGPT a violé plusieurs lois canadiennes sur la vie privée. Un texte de Boris Prou paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir. Le populaire robot conversationnel ChatGPT de l'entreprise américaine OpenAI a été développé au mépris des lois canadiennes et québécoises sur la protection des renseignements personnels, conclut une enquête conjointe entre les deux paliers de gouvernement. OpenAI a lancé ChatGPT sans avoir pleinement pris en compte les risques connus en matière de protection de la vie privée, a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Philippe Dufresne, lors d'une récente conférence de presse. Son enquête, menée conjointement avec ses homologues du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, reproche à ce modèle d'intelligence artificielle, IA, d'avoir collecté une quantité excessive de renseignements personnels et de ne pas s'être assuré d'avoir le consentement de ses utilisateurs pour le faire. De plus, le défaut de l'IA de commettre des erreurs factuelles, souvent qualifiées d'hallucinations, n'a pas fait l'objet d'un avertissement approprié. Jusqu'à tout récemment, la société n'avait pas procédé à une évaluation visant à vérifier l'exactitude des renseignements personnels figurant dans les réponses de ChatGPT, peut-on lire dans le rapport. Le modèle manquait aussi de procédures pour corriger ou supprimer les données personnelles incorrectement collectées. De manière générale, le lancement de ChatGPT a ouvert la porte à des risques de préjudice envers la population comme de la discrimination fondée sur les renseignements fournis à leur sujet. Le commissaire Dufresne explique que c'est parce que le robot conversationnel recrachaient parfois de l'information d'une crédibilité douteuse trouvée sur les réseaux sociaux, mais sans l'indiquer. Au moins 4 lois violées. Le développement de ChatGPT a ainsi contrevenu à la loi fédérale et à au moins 3 lois provinciales, dont la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. Parmi les recommandations de la présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec, Lise Girard, se trouve la demande d'informer les utilisateurs du site que leur clavardage pourrait être utilisé pour entraîner le modèle de l'IA. Elle aimerait aussi que cette option ne soit pas celle activée par défaut. La vice-présidente de la Commission, Naomi Ayotte, a aussi précisé que le consentement des utilisateurs doit être sollicité dans des termes clairs et non pas enfoui dans un long formulaire illisible. Depuis le lancement de l'enquête conjointe fédérale-provinciale, OpenAI dit avoir pris ou avoir l'intention de prendre plusieurs mesures de conformité. Ces dernières ont satisfait le commissaire fédéral, Philippe Dufresne, qui juge que la plainte fédérale est conditionnellement résolue. La loi canadienne s'applique à OpenAI du fait que son produit est accessible aux Canadiens. L'entreprise est aussi dans l'eau chaude au pays en raison de son possible rôle dans la tuerie de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, après des révélations selon lesquelles la tireuse aurait fait part de macabres scénarios à ChatGPT avant de passer à l'acte. Le rapport de mercredi survient dans un contexte où le gouvernement fédéral n'a toujours pas encore rendu publique sa stratégie sur l'IA, pourtant promise avant le mois d'avril. Pendant ce temps, le gouvernement de Donald Trump somme le Canada de retirer ses lois encadrant déjà les géants du numérique. C'était ChatGPT a violé plusieurs lois canadiennes sur la vie privée, un texte de Boris Proulx paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir.
En France, le calvaire des livreurs sans papier qui font rouler l'économie. Un texte de Raphaël Miro, de l'agence France Presse, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir. En France, les plateformes de livraison de repas emploient un grand nombre d'immigrants sans papier, à l'instar de larges pans de l'économie du pays. Sur la rue Lafayette à Paris, on les voit sans cesse aller et venir sur leur vélo avec d'énormes cubes bleus ou verts pastels sur le dos. Quand ils ne sont pas en train de pédaler vers un client ou vers un restaurant, ils se regroupent pour attendre, le regard anxieusement tourné vers leur téléphone. Quand l'application ne sonne pas, on peut attendre très longtemps sans rien gagner, déplore Shaibour Rahman, un livreur à vélo rencontré par Le Devoir, pendant qu'il attend sur son vélo. La nuit, on attend un peu moins longtemps, donc on fait un peu plus d'argent, explique le vingtenaire, qui travaille toutes les nuits de 19h à 5h du matin. « Je ne prends pas souvent de congé, » dit-il en soupirant. Arrivé il y a 3 ans en France, Shaibour Rahman voudrait bien trouver un travail mieux rémunéré. Mais comme des centaines de milliers d'autres immigrants à Paris, il n'a pas de titre de séjour et n'a donc pas le droit de travailler sur le territoire français. « Personne ne veut m'embaucher, » explique le coursier, qui a très peu de temps pour chercher un autre travail de toute façon. 99 % des livreurs sont nés à l'étranger. Selon un rapport de l'Institut national d'études démographiques paru en avril 2026, les 2/3 des milliers de coursiers travaillant pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo en France seraient des sans-papiers. Même en comptant ceux qui ont un titre de séjour, près de 99 % des livreurs sont nés à l'étranger. C'est plus que dans n'importe quel autre métier, explique Marwan Alkaïs Bousma, économiste à l'INED. D'après l'étude, les livreurs gagnent en moyenne 1 540 euros bruts par mois, soit 300 euros de moins que le salaire minimum, sans aucune retraite ni protection sociale, alors qu'ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine. La plupart des livreurs ont aussi des charges à payer, ajoute Marouane Bousma. Pour les coursiers sans papier en particulier, il faut trouver une personne prête à louer un compte Uber ou Deliveroo, la plupart du temps à prix fort. Tous les deux ou trois jours, l'application me demande de faire une photo pour confirmer que je suis bien mon loueur, raconte Shaibour Rahman, qui doit alors se dépêcher de le rejoindre. Chaque mois, je dois donner 40 % de ce que je gagne à mon loueur, explique pour sa part Monir, un livreur bengali venu se reposer sur la rue Lafayette. Comme la plupart des livreurs rencontrés par Le Devoir, il préfère taire son nom de famille, de crainte que son compte soit désactivé. À la fin du mois, il me reste environ 600 euros, mais je dois encore payer 160 euros pour mon vélo électrique et 200 euros pour me loger, énumère-t-il. J'ai de 130 à 140 euros pour manger et faire face aux imprévus. Le matin même, Monir a eu un accident en freinant subitement pour ne pas être heurté par une voiture. Il s'est fait mal au bras, mais il s'inquiète surtout pour le réflecteur de son vélo qui s'est brisé dans la chute. « La réparation devrait me coûter environ 10 euros », dit Monir dans un soupir, en désignant le petit bout de plastique. Autrement dit, 2 jours de son budget alimentaire. De part et d'autre de la rue, des dizaines de coursiers comme lui entrent et sortent de boutiques spécialisées en réparation et en location de vélos électriques, des vélos qui peuvent valoir plus de 1 000 euros chacun. Comme beaucoup de livreurs interrogés par Le Devoir, Monir ne va pas se faire soigner à l'hôpital, même quand il chute de son vélo. Les personnes qui n'ont pas de papier ont, en théorie, droit à certains soins gratuits, mais beaucoup ne sont pas en mesure de faire les démarches administratives pour y accéder, explique la docteure Séverine Bayer de l'Association Médecins du Monde, qui observe des problèmes au dos et aux muscles chez beaucoup de livreurs. À force de ne pas être soignés, le problème s'aggrave. Selon l'étude de l'IND, 43 % des livreurs présenteraient aussi des troubles de santé mentale, allant de l'anxiété aux troubles dépressifs. Une économie dépendante du secteur. Outre la livraison de repas, de larges pans de l'économie française reposent sur le travail de sans-papiers, en particulier les secteurs de la construction, de la restauration, de l'agriculture, de l'aide aux personnes âgées, de la transformation alimentaire. Les sans-papiers exercent toutes sortes de tâches pénibles, du découpage de carcasses au tri des déchets. On parle de la règle des 3D, explique Gérard Ray, responsable des travailleurs sans papier à la Confédération générale du travail. Dès qu'on a affaire à un métier difficile, dégueulasse ou dangereux, il y a de bonnes chances de tomber sur des travailleurs sans papier. Ce sont des métiers qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais pour lesquels les Français ne sont plus prêts à accepter les conditions de travail, indique Emmanuel Auriol, professeur à l'École d'économie de Toulouse, qui remarque que les entreprises ne se font pas emmerder par l'État quand elles emploient des sans-papiers. Elle dénonce une hypocrisie du gouvernement français qui, d'un côté, limite l'immigration régulière pour plaire aux électeurs, mais qui, de l'autre, tolère que des entreprises emploient des sans-papiers hors de toute surveillance légale. Quand on n'a pas de papier, on est obligé d'accepter n'importe quoi et on n'est pas traité de la même manière que les autres travailleurs, confie Au Devoir Mamadou Doumbia, un ancien sans-papier d'origine ivoirienne. On ne doit rien demander et on ne peut pas se plaindre s'il arrive un problème. Pendant une dizaine d'années après son arrivée en France, ce quarantenaire a enchaîné les petits boulots dans la sécurité, dans l'agriculture et surtout dans la construction. Quand tu n'as pas de papier, tu n'existes pas, se souvient-il. Chaque fois que tu sors de chez toi, tu as la boule au ventre parce que tu pourrais être contrôlé par la police et expulsé. En France, la loi permet aux sans-papiers d'obtenir un titre de séjour s'ils démontrent qu'ils ont travaillé pendant au moins 12 mois. Le problème, c'est qu'il faut être capable de prouver qu'on a travaillé et que la plupart des employeurs refusent de donner des fiches de paye aux sans-papiers pour ne pas laisser de traces. En 2024, le Parlement européen a adopté une directive pour que les États présument que les travailleurs des plateformes sont des salariés et non de faux travailleurs indépendants. L'Espagne a déjà adopté une loi pour transformer les coursiers des plateformes en salariés, ouvrant ainsi la voie à une plus grande protection sociale. La France a jusqu'au 2 décembre 2026 pour s'y conformer aussi. Au Canada comme en France. Au Canada, la question du travail des sans-papiers est moins présente dans le débat public. Pourtant, selon les différentes estimations, entre 100 000 et 1 million de personnes habiteraient au pays sans avoir de permis de travail, un ordre de grandeur comparable à celui de la France. Depuis le serrage de vis concernant les travailleurs temporaires, le nombre de travailleurs sans-papiers pourrait avoir augmenté. Comme en France, le secteur du bâtiment emploierait des sans-papiers sans qu'il soit possible de savoir dans quelle proportion. Dans le cas des livreurs de plateforme, il y a moins de personnes sans permis de travail au Canada qu'en France, relève Émile Barry, chercheur à l'Université Concordia, qui a étudié leur situation à Montréal et à Toronto. Ça n'empêche pas que ce sont des conditions de travail très pénibles, avec un salaire qui peut être aussi bas que 2 $ l'heure, affirme le chercheur, qui note que ce sont souvent des immigrants ou des étudiants étrangers qui travaillent pour les plateformes. Sans papier ou pas, ce sont les personnes les plus vulnérables qui occupent ces emplois. C'était, en France, le calvaire des livreurs sans papier qui font rouler l'économie, un texte de Raphaël Miro de l'agence France-Presse, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir.
Civilisation, c'est le mot de la semaine de Nathalie Collard, qui coiffe un texte qui est publié dans la presse du 10 avril 2026. Citation : Une civilisation entière mourra ce soir pour ne plus jamais renaître. Fin de citation. C'est ce que Donald Trump écrivait mardi matin sur son réseau Truth Social, faisant grimper l'anxiété générale de quelques crans, si c'est encore possible. Mais au fait, comment meurent les civilisations? Citation : Les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Fin de citation, affirmait l'historien britannique Arnold Toynbee, auteur d'une étude monumentale en 12 volumes sur l'évolution des grandes civilisations. Cette citation a été utilisée à toutes les sauces depuis. En fait, les civilisations ne disparaissent jamais d'un seul coup, n'en déplaise au président des États-Unis. Elle se transforme lentement pour donner naissance à une autre, mais jamais sans laisser de traces derrière elle. En Iran, par exemple, la langue, le farsi, les fêtes, l'artisanat et la littérature sont des héritages de la civilisation perse. La Grèce antique, le berceau de l'Occident, nous a légué la démocratie, alors que, plus près de nous, le Code civil du Québec est un héritage direct de l'Empire romain. Tout ça pour dire que les invasions barbares ou tout autre assaut militaire ne viennent jamais seuls à bout d'une civilisation. Son effacement graduel est le résultat d'une combinaison de pressions internes, une crise économique ou politique majeure, par exemple, et externes, comme une guerre ou une invasion qui peuvent s'étendre sur plusieurs siècles. Un dirigeant politique aussi instable psychologiquement, soit-il, qui annonce la mort d'une civilisation, ce n'est pas rien. Ça marque l'imaginaire. Donald Trump se voit-il en prophète? Un prophète qui nous annoncerait l'apocalypse afin de créer le chaos? On a bien compris, en fin de compte, que le président américain est mollement motivé par l'idée de libérer le peuple iranien du régime des mollahs ou d'aider à établir en Iran les bases d'une société libre et démocratique. Jusqu'ici, les faits révèlent plutôt que le président semble davantage excité par l'idée d'aller à la guerre. Point. Et ce, même si tout son entourage s'y opposait au départ. C'est du moins ce qu'a révélé le New York Times mardi dans un récit captivant des discussions ayant mené au déclenchement du conflit au Moyen-Orient aux côtés d'Israël. On y raconte, entre autres, la visite à Washington du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du chef du Mossad, David Barnea, pour exposer au président des États-Unis les arguments en faveur d'une intervention militaire. Les deux journalistes qui signent le texte s'apprêtent d'ailleurs à publier un livre, Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dans lequel ils relateront ces discussions. Le titre, Présidence impériale, est tout à fait à propos quand on se rappelle les millions d'Américains descendus dans la rue il y a deux semaines qui scandaient No Kings. Dans leur reportage, les deux journalistes du New York Times qualifient de pensée belliciste, hawkish thinking, l'attitude de Trump dans les circonstances. Belliciste, synonyme de belliqueux, soit quelqu'un qui, guillemets, prône la guerre et l'emploi de la force dans le règlement des conflits internationaux, fin des guillemets, selon Antidote. Pour toute réponse au pitch de guerre du premier ministre israélien, le 11 février dernier, Donald Trump aurait répondu « Sounds good to me, ça me va ». Guillemets, « a walk in the park », fin des guillemets, comme on dit chez nos voisins du Sud. Ironiquement, M. Trump ne semble pas réaliser qu'au moment où il annonce la fin d'une civilisation, la sienne est sérieusement menacée. Que restera-t-il de la société américaine après son passage à la Maison-Blanche? Ça irrite beaucoup les historiens quand on compare l'Amérique de Trump à l'Empire romain. Il y a pourtant des points communs, surtout vers la fin. Un empire affaibli, politiquement instable, déchiré par des conflits internes, et composé de quelques mercenaires barbares. Tout ce qui fait la force et la grandeur des États-Unis, sa démocratie, ses institutions, son multiculturalisme, son vivre ensemble, est chambranlant. Trump utilise un mot noble comme civilisation, qui évoque aussi l'humanisme et la culture, pour annoncer la destruction massive d'un pays ennemi. Il vide le mot de son sens profond et le remplit d'intentions de destruction, de puissance et de vengeance. Rien de très civilisé, en somme. Et c'est la fin de cette chronique de Nathalie Collard, coiffée du titre « Civilisation », publiée dans la presse du 10 avril 2026.